Croire à la fin des temps et à la résurrection des morts. Les contemporains de Mohammed à la Mecque n'avaient apparemment pas d'idée très claire sur la vie après la mort. Le mot « destin » désignait une puissance plus grande que celle des dieux qui détermine tout. Celui qui pense que la vie terrestre est la seule que l'on ait est fortement tenté d'en profiter tant que cela dure. Celui pour qui cette vie est seulement un bref prélude à l'éternité espère se préparer dès cette vie à connaître une éternité de bonheur après la résurrection. Le prophète Mohammed a averti ses contemporains qu'après la mort viendrait le jour de la résurrection. Tous les faits et gestes d'une personne sont consignés dans un livre qui est placé, en fonction du bilan final, soit dans sa main gauche, mauvais signe, soit dans sa main droite, selon qu'elle ira en enfer ou au ciel. L'islam n'intègre pas la notion de purgatoire, pour ceux qui ne méritent ni le ciel ni l'enfer, et ne prévoit pas non plus de limbe pour ceux qui ne pourraient pas entrer au ciel sans que cela soit imputable à une quelconque responsabilité de leur part. Cependant, la miséricorde de Dieu est si infinie que même des musulmans voués à connaître l'enfer pourront finalement être admis au ciel. À retenir. Le Coran regorge d'images de l'enfer, mais sans en donner une vision d'ensemble ni un panorama complet. L'enfer et le ciel ont chacun 7 niveaux. La tradition met l'accent sur la description des supplices de l'enfer de façon très visuelle. Généralement, la punition est proportionnelle au péché. La description des tortures de l'enfer est semblable à celle que l'on trouve dans beaucoup de religions. Le feu est la caractéristique principale de l'enfer. Le ciel est décrit comme un jardin bien arrosé dans lequel ceux qui ont reçu le salut mènent une existence sereine. Le but de ces visions du ciel et de l'enfer est de motiver les vivants pour les inciter à vivre de façon à éviter l'enfer et mériter le ciel au jugement final. Bien que les musulmans croient que tout le monde repose dans la main de Dieu, beaucoup sont enclins à penser qu'en tant que musulmans, la miséricorde de Dieu leur est davantage acquise pour entrer au paradis. La tradition islamique fournit une image détaillée de ce qui se produit dans la période qui se situe entre la mort et l'entrée au ciel ou en enfer. Après la mort, deux anges procèdent à l'examen du défunt enterré, ce qui peut conduire à une période limitée dans le temps de punition dans la tombe. Divers événements signalent la venue de la fin des temps, où tous seront ressuscités et passeront l'épreuve ultime du jugement dernier. Pour plus de détails sur la fin des temps, le jugement dernier, le ciel et l'enfer, écoutez le chapitre 7. Pour aller plus loin, toutes les religions sont confrontées au problème du rapport entre le libre arbitre et la prédestination. La plupart des personnes ressentent plus ou moins intérieurement que leurs actions en ce monde affectent dans une certaine mesure leur destin ici-bas. Celui qui n'étudie pas n'aura pas de bonnes notes. Celui qui étire au flanc à son travail n'obtiendra pas de promotion. Le libre arbitre consiste à reconnaître que c'est à chacun de prendre la décision d'étudier ou non, de s'impliquer ou non dans son travail. Les religions prolongent ce concept de libre arbitre dans l'au-delà. L'hindouisme et le bouddhisme partagent une même conception du karma. On récolte ce que l'on a semé. Ils croient également à la réincarnation ou à la renaissance. Ce qui nous arrive dans cette vie est simplement le fruit et l'aboutissement de nos actes dans une vie passée. Si vous souffrez dans cette vie, ce n'est pas par punition, mais simplement la conséquence naturelle des choix que vous avez faits dans une vie précédente. Les religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, ne croient pas à la réincarnation. On ne vit qu'une fois et les choix que l'on fait dans cette vie sont déterminants pour la vie éternelle. Dire que je peux librement faire ces choix, c'est affirmer mon libre arbitre. Les religions monothéistes affirment également que Dieu est responsable en dernier lieu de tout ce qui se produit. S'il en était autrement, ce serait diminuer la toute-puissance de Dieu. Problème. Comment peut-on dire que les hommes sont responsables de leurs propres actions et affirmer en même temps que Dieu est le maître de l'univers? Si en revanche, on met l'accent sur la prédestination voulue par Dieu, on risque d'être tenté de dire que sa mauvaise ou bonne fortune est simplement l'effet de la volonté mystérieuse de Dieu. En outre, si Dieu détermine tout, le bien et le mal, alors je peux aussi bien faire tout ce qui me plaît, puisque de toute façon, Dieu a déterminé à l'avance le résultat final. Et si mes actions pécheresses sont dues à une décision de Dieu, prise avant même que je sois né, n'est-il pas injuste de la part de Dieu de me condamner à l'enfer pour avoir fait ce qu'il avait prédéterminé que je ferais? Voici un aperçu un peu succinct des débats théologiques les plus délicats qui agitent les théologiens des religions monothéistes. L'idée est simplement d'en faire ressortir toute l'importance. Cette cinquième ou sixième croyance affirme que Dieu est finalement responsable de tout ce qui se produit. En défendant cette position, certains musulmans sont allés jusqu'à nier, effectivement, le principe de l'enchaînement logique de la cause et de l'effet. Cependant, la position dominante a essayé de défendre à la fois le libre arbitre et le déterminisme divin. Le plus grand théologien musulman du IXe siècle, Al-Ash'ari, a affirmé que même si Dieu sait, veut et détermine ce que chacun fera, les personnes n'en sont pas moins responsables de leurs actions en choisissant librement de poser les actes qu'elles étaient appelées à poser de façon prédestinée. L'auteur sait que pour beaucoup d'Occidentaux non musulmans d'aujourd'hui, la solution d'Al-Ash'ari ressemble davantage à un tour de passe-passe sémantique qu'à une solution véritable. Mais avant de vous lancer dans une critique hâtive de l'islam sur cette impossibilité à concilier libre arbitre et déterminisme divin, rappelez-vous qu'aucune solution à ce problème éternel ne peut résoudre cette question de façon satisfaisante pour un non-croyant. Conseil. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « si Dieu le veut ». Les musulmans ajoutent fréquemment la formule « Inch'Allah » après toute expression de ce qu'ils feront à l'avenir. « Je serai ici demain à 14h, Inch'Allah, si Dieu le veut. » Cela signifie que si c'est bien celui qui parle qui prend la décision finale revient tout de même à Dieu au bout du compte. Les piliers de la foi représentent les croyances de base auxquelles tout musulman doit adhérer. Un musulman novice accepte ces principes en vertu de l'autorité du Coran et du prophète Mohammed. À un niveau ultérieur, le musulman mûrit sa foi et approfondit les notions auxquelles il croit. Il en vient ainsi à s'imprégner davantage de ses vérités de foi. Pour aller plus loin, indépendamment du fait que vous adhériez ou non à ces croyances, elles restent assez faciles à comprendre. L'islam a un avantage par rapport à d'autres religions en ce qu'il offre une liste courte de croyances facilement comprises. Les nouveaux convertis peuvent saisir les concepts de base sans avoir à se triturer les méninges ni à devenir des apprentis théologiens. Pas de complications théologiques. Pas d'exigences impossibles à tenir. Par exemple, avec le concept chrétien de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, ou le concept de l'extinction du soi, du bouddhisme Mahayana, dit du grand véhicule, selon lequel la perception que l'on peut avoir de sa propre personnalité ou de l'âme est précisément ce qui empêche d'obtenir le salut. Le musulman, en revanche, n'est pas tenu de devenir un théologien en herbe. La théologie, kalam, fait bien partie des disciplines islamiques, mais faire de la théologie n'est pas le plus important dans l'islam. Et certains musulmans en rejettent même l'idée. Pour eux, il suffit d'avoir la foi du charbonnier et de s'en tenir à la lettre aux paroles du Coran et aux hadiths du prophète Mohammed. Cependant, comme dans d'autres religions, ceux qui prétendent exprimer simplement ce qui ressort des textes des Écritures sacrées sans les interpréter en restent à un niveau de base et occultent des réalités plus subtiles qui sont mises au jour par d'autres façons d'interpréter les textes des Écritures sur la base des mêmes textes sacrés. Dès que l'on commente un texte sacré, plutôt que de se contenter de le citer, on s'engage dans une interprétation. Nier cela est une attitude malhonnête.